Cours de philosophie première de Père-Marie Dominique Philippe, le 30 mars l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Dans la perspective du cours d'hier, n'oublions jamais que seule l'intelligence peut non pas saisir, il n'y a pas d'appréhension, mais dans le jugement, saisir l'infini, ce qui n'a pas de limite, mais la négation, pas celui qui manque de limite, mais celui qui n'a pas de limite. C'est pas la même chose. Il y a un infini privatif et il y a un infini qui est ouvert à tout. Alors, on a un infini du côté de l'intentionnalité, pas du côté substance, pas du côté de l'être, et ce n'est que du côté de l'intelligible ou du côté affectif. Je crois que cela joue un très grand rôle dans un aspect de séduction. Je suis très frappé, alors surtout en théologie naturelle, de voir que, à partir de Don Scott est un très grand tournant, hein, au point de vue métaphysique. Parce que c'est le premier qui a dit que la causalité finale est métaphorique. Ah, ça a d'immenses conséquences. Parce que ça ouvre la porte à la primauté de l'efficacité. Et ça ferme la porte du côté de l'amour. L'amour n'est plus premier, puisqu'il n'est pas efficace. Vous voyez ? Au fond, l'amour serait toujours romantique. Un amour romantique toujours lié à l'imaginaire. Et il ne serait pas une causalité métaphorique, parce qu'il ne peut être cause réelle que par la cause efficiente. Il n'est pas par lui-même cause. Vous voyez ? C'est Don Scott qui dit cela, donc très peu de temps après Thomas d'Aquin. Et il y a eu, au point de vue historique, une confusion entre un disciple de Don Scott, qu'on a considéré comme un disciple de saint Thomas, et qui a affirmé que la causalité finale n'était pas réelle mais métaphorique, qui a fait qu'à partir de ce moment-là, dans la scolastique, on a affirmé que la causalité finale était métaphorique. Il y a un livre qui a été écrit, quelqu'un s'est consacré à montrer comment la scolastique avait dévié à partir de ce moment-là. Historiquement, c'est très intéressant parce que fait deux courants tout à fait différents. Et philosophiquement, c'est désastreux de supprimer la causalité finale, cause des causes. Aristote et Thomas d'Aquin le disent, la finalité est cause des causes parce que je n'agis que quand je suis finalisé. Donc, c'est plutôt l'inverse. La cause efficiente n'est efficace que par la finalité. Ou bien elle se perd. Et alors, il y a en même temps, parmi les attributs de Dieu, du moins parmi les manières de considérer Dieu, dont Scott est le premier qui met l'infini en premier lieu. Ce n'est plus la simplicité, ce n'est plus la perfection et la bonté, comme chez Thomas d'Aquin, mais l'infini. Chez Thomas d'Aquin, l'infini apparaît, c'est évident. Dieu est infini dans son être. Mais ça apparaît après la simplicité, après la perfection, après la bonté. Ça, vous pouvez le constater dans la Somme. Vous n'avez qu'à regarder la Somme, vous voyez ça tout de suite. Et Don Scott met l'infini comme premier attribut de Dieu. Or, je crois, je voudrais creuser ça, parce que ce serait intéressant pour voir où, de fait, l'ontologisme, l'erreur de l'ontologisme, va naître. L'ontologisme identifie l'intentionnalité et le réel. Alors, vous voyez tout de suite les catastrophes qu'il peut y avoir. Vous pouvez penser l'infini, donc c'est infini, c'est le réel. Vous pouvez réfléchir sur l'infini. Et les puissances, puisque c'était ça que hier on voyait, la puissance intellectuelle, c'est-à-dire l'intelligence, saisit l'être. La notion d'être. Et cette notion d'être n'a pas de limite. L'intelligence, puissance, peut aller toujours plus loin. Je ne peux jamais, au point de vue intellectuel, dire c'est fini. La métaphysique, maintenant, je la connais. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux jamais dire ça. Je peux toujours aller plus loin. En intensité, en recherche de précision et en extension. Tout le temps. Et un savant peut dire, avec les instruments que j'ai, je ne peux pas aller plus loin, mais si j'avais des instruments qui était meilleur, je pourrais aller plus loin. Il est limité par ses instruments. Le chercheur, constamment, c'est les instruments qui l'empêchent d'aller plus loin. Comme le philosophe n'a pas d'instrument, il a son intelligence. Et c'est l'expérience. Et il peut aller toujours plus loin. Toujours réfléchir davantage. La saisie de la substance, comme c'est au terme d'une induction qu'il saisit la substance, il peut toujours mieux la saisir. Il faut commencer à la saisir un tout petit peu, en novice. Et vous savez que vous la saisirez mieux au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous avez le souci de revenir toujours à l'induction, si vous ne revenez pas là, vous resterez au niveau d'une métaphysique novice. Et ça arrive très souvent, hélas. On entre en théologie et on s'arrête de faire de la philosophie. Et dès qu'on s'arrête de faire de la philosophie, on ne progresse plus. Mon intelligence progresse par la métaphysique. Elle pénètre toujours plus, plus à fond. Donc, en faisant de la théologie, on doit continuer sa métaphysique pour qu'on avance et on arrive toujours plus loin. Et c'est la même chose pour l'éthique, pour morale, toute l'éthique dépend du bien. Et la notion du bien dépend de la notion d'être. La ratio entis et la ratio boni sont convertibles. Si votre ratio entis est saisi avec plus de vigueur, plus d'acuité, votre ratio boni est mieux saisi. Vous avez une vision plus nette du bien, de la ratio boni. Et par le fait même, l'éthique est saisie avec plus de précision, plus de netteté. Vous voyez, les facultés d'intelligence sont ouvertes à l'infini, en précision et en quantité. Ça, c'est très séduisant. Tandis que votre âme est limitée dans l'être. Non, elle est limitée dans l'être, c'est pour ça qu'elle n'est pas infinie. Il n'y a qu'en Dieu où l'infini de l'être et l'infini de l'être, l'infini intellectuel et l'infini de l'être sont identiques. Dieu est infini dans sa connaissance et Dieu est infini dans son être. Il est infini, il est l'infini. Substantiellement infini. Tandis que vous n'êtes pas substantiellement infini. Vous êtes substantiellement fini, créé, dépendant de Dieu. Et votre intelligence a une possibilité d'aller toujours plus loin. Dans votre intelligence, il y a une conquête qui peut se faire tout le temps plus. Et dans votre volonté aussi. Vous pouvez toujours aller plus loin dans votre volonté. Aimer plus. Aimer davantage. Alors, puisque par l'intelligence, je suis ouvert à l'infini, il y a une séduction très grande de ne considérer que mon intelligence et d'oublier l'âme. Vous voyez ? En quelque sorte, on ne regarde plus l'être et on ne regarde plus que l'intentionnalité. C'est très curieux et très, très intéressant à noter, parce que ça fait comprendre beaucoup d'erreurs. Alors, c'est intéressant de comprendre ces erreurs, parce que si on les a compris, on ne tombe pas dedans, on ne les suit plus. Très souvent, on suit les erreurs parce qu'on ne les voit pas. On ne voit pas que ce sont des erreurs. On est séduit. C'est très séduisant, l'infini. C'est très séduisant, l'intelligible, l'intelligence ouverte à l'infini. Tandis que l'âme a déterminé, fini. Bon, que nous sentons la différence et la séduction, c'est très bien. On la porte en nous. Et cela explique des quantités d'erreurs et aussi ça explique comment on peut vivre dans une espèce de tension. L'intelligence est infinie. L'âme unie au corps est finie. Et on voudrait que l'âme unie au corps, elle aussi soit infinie. Alors ça fait vivre à l'âme une tension anormale, fausse. Parce que l'infini est vraiment, au point de vue intentionnel, il n'est pas un point de vue réel. Il n'y a que Dieu qui est réellement infini. Et on a toujours une espèce d'envie d'être Dieu. Et on réalise ce désir en croyant que l'intentionnalité que nous saisissons, qui est infinie, est identique au réel. Et donc, on saisit le réel est infini pour moi. Deuxième constatation. La puissance, intelligence et volonté sont toujours deux puissances qui peuvent être rivales. Toutes les deux peuvent saisir, sont ouvertes à l'infini. Mais de façon très différente. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Parce que c'est pas du tout la même chose du côté intellectuel et du côté volontaire. Du côté intellectuel, on est dans l'intelligible, les possibles. Du côté volontaire, on est du côté de ce qui m'attire. Alors, l'infini est dans le désir. Il n'est pas dans l'amour. Le désir peut être infini. L'amour qui porte sur un bien qui existe, il n'est pas. Il est infini quand on atteint Dieu. Et Dieu seul est le bien infini. Donc, l'amour, le véritable amour, lui, se rectifie. Il y a une rectification pour l'amour. Parce que je n'aime que le bien qui existe. Je n'aime pas le bien hypothétique. Il n'y a pas de véritable amour pour un bien imaginaire. Un bien imaginaire me donne un amour qui est une velléité et qui n'est pas un amour vrai. Il n'y a que Dieu qui est bien infini et que je puis aimer d'une façon infinie, sans limite. Il n'y a qu'à l'égard de Dieu que mon amour réel, vrai, n'est pas limité. Et si je suis chrétien, c'est par la charité que je réalise cet amour pour Dieu. Au point de vue humain, je vois que je cherche Dieu tout le temps. Je suis toujours dans une recherche. Tandis que, au point de vue chrétien, la charité réalise ça. Et c'est le grand mystère chrétien. Ça. C'est que la charité qui me fait aimer Dieu, qui me fait aimer le bien infini, le fait aimer vraiment. Même si mon amour est imparfait, il touche quand même quelque chose d'infini. Et le désir, lui, peut être infini. C'est pour ça que le désir est ce qu'il y a de plus grand sur la terre. Au point de vue humain, point de vue divin, c'est la charité. Et la charité n'est pas un désir, elle est. Il y a le réalisme de l'amour divin. Il y a aussi le désir, il y a l'espérance. Mon amour peut grandir toujours. Je peux aimer Dieu toujours d'une façon plus réaliste et plus vraie, et plus profonde, plus totale. Mais la charité, elle est. C'est pour ça, du reste, qu'à côté de la charité, il y a l'espérance. Si la charité était un désir, il n'y aurait pas l'espérance. Tandis que l'espérance est ce désir de Dieu, en premier lieu. L'espérance porte sur le mystère divin. C'est une vertu théologale. Donc elle porte directement sur Dieu, sur le désir que j'ai d'aimer Dieu. Et que je peux aller toujours plus dans ce désir d'aimer Dieu. Ça, c'est au point de vue surnaturel. Ce n'est pas au point de vue naturel. Au point de vue naturel, mon amour à l'égard de Dieu reste ouvert par le désir. Par le désir, reste ouvert à l'absolu. Mais je ne l'ai pas, je ne le touche pas. Je ne peux pas aimer Dieu directement, naturellement. Je le désire. L'amour a un réalisme que la connaissance n'a pas. Il faut toujours se rappeler ça. Le réalisme de l'amour, c'est que je ne peux aimer qu'un bien qui existe. L'amour porte toujours sur un bien qui existe. Autrement, c'est le désir. Ben, ce bien qui existe peut être quelque chose que je n'atteins pas directement ici sur Terre, mais je sais que mon amour ne sera satisfait que quand je pourrai l'atteindre directement. Ça, c'est le réalisme de l'amour. Et ce réalisme de l'amour est quelque chose de très important. Parce que si je ne suis pas très éveillé dans mon intelligence, si mon intelligence ne saisit pas profondément l'être, et le réel, l'amour le saisit plus vite et sera là pour rappeler constamment à l'intelligence de bien distinguer l'intentionnalité du réel. Parce que je peux aimer le bien réel, je ne peux pas aimer le bien intentionnel. Parce que très très vite, l'imagination s'y mêle. Il faut se rappeler, d'autre part, que justement, je peux découvrir l'existence de Dieu par l'intelligence, mais une intelligence qui ne méprise pas l'amour. Je crois que la découverte de l'existence de Dieu se fait par une connaissance sapientiale, c'est-à-dire une intelligence liée à l'amour. Trop souvent, on a voulu prouver l'existence de Dieu par une intelligence purement spéculative. On s'est efforcé de faire cela. Alors, par le fait même, cette intelligence, très souvent, s'est reposée sur la logique. je peux découvrir Dieu par un raisonnement parfaitement logique. Si mon raisonnement est parfaitement logique, cela ne veut pas dire que le contenu de ce raisonnement est saisi. Oui. Je veux dire, la métaphysique pour la saisie de la substance, c'est l'induction. Quand j'ai saisi la substance, ce que nous faisons ensemble, nous regardons la substance et les autres accidents, pour mieux saisir la substance, toujours. Je saisis mieux la substance quand je vois que la substance n'est pas la qualité. Parce que je vois tout ce que c'est la qualité, et donc je dis, la substance contient implicitement toutes ses qualités, qui s'épanouissent dans les qualités. Mais il y a des qualités qui manifestent plus profondément l'être que la substance, qui est toujours cachée. La figure, par exemple, manifeste. Ou la puissance. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance met en lumière comparativement à la substance? Comparativement à la substance, oui. C'est la finalité. La finalité se découvre à l'aide des puissances. La finalité se découvre aussi en métaphysique, par l'acte. Vous voyez, vous avez deux pistes pour saisir la finalité. La métaphysique toute pure, dans sa pureté royale, c'est la saisie de l'acte. On saisit la substance, on saisit l'acte. Il y a deux grandes parties dans la métaphysique. Et deux grandes parties qui sont purement spéculatives. C'est l'intelligence dans toute sa pureté. Ce n'est pas une intelligence amoureuse. Je n'aime pas la substance. Je ne peux pas dire que je l'aime. C'est un principe. L'amour des principes, ce n'est pas mouffet. Un principe, c'est assez froid. C'est assez glacial. C'est un iceberg. Il ne faut pas s'approcher de trop. Un principe. Mais l'être en acte, comme nous le verrons, si Dieu le permet, ou au ciel ou sur la terre, l'être en acte est un principe final. Le principe propre de l'être, selon la causalité finale, c'est l'acte. Le principe propre de l'être sur la cause formelle, c'est la substance. Donc, je peux saisir la finalité par la métaphysique de l'être. Je la saisis vraiment, dans toute sa pureté. Et quand, après avoir saisi la substance et saisi l'acte, mon intelligence se pose la question, existe-t-il une réalité autre que toutes les réalités que je vois, qui se manifestent à moi, dont j'ai l'expérience? Existe-t-il une réalité première, au-delà de tout ce que je vois, qui est Dieu, selon le langage religieux. Dans cette découverte, l'intelligence fait appel à la finalité. Seule la finalité me permet de découvrir Dieu. Je ne peux pas découvrir Dieu par la causalité formelle. Puisque je le découvre comme la réalité transcendante. Au-delà de tout ce que je peux atteindre, directement. Je le saisis par l'acte, mais mon acte, qui est causalité finale de l'être, n'est saisi parfaitement comme causalité finale que lorsque cet acte se réalise concrètement dans une réalité, ce que je cherche. Vous voyez ? Et c'est ça la difficulté. Je ne peux pas aimer Dieu avant de l'avoir découvert. Est-ce que, posez-vous la question, puis-je aimer Dieu avant de l'avoir découvert ? Puis-je l'aimer naturellement avant de l'avoir découvert par l'intelligence ? Vous pouvez dire, vous êtes un très mauvais juge si vous étiez dans une famille chrétienne. Parce que dans une famille chrétienne, le point de vue de la foi et le point de vue de la connaissance, la plupart du temps, sont mêlés. On ne sait plus très bien ce qui est de la foi et ce qui est de l'intelligence. C'est le danger de la famille chrétienne. Il y a toujours un danger. Une famille vraiment chrétienne devrait toujours maintenir la distinction entre l'ordre naturel et le surnaturel. Le petit gosse qui a envie du pot de confiture et qui, quand la mère a tourné le dos, se précipite sur le pot de confiture, mais cet amour de la confiture n'est pas l'amour de Dieu. Or, c'est un amour. Il aime cette confiture, elle est bonne. Il sait que c'est bien défendu. Tandis qu'aimer Dieu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas aussi bon sensiblement. Et aimer Dieu, ce n'est pas défendu. Tandis qu'aimer la confiture, c'est défendu. Vous voyez, comme c'est dangereux de défendre trop de prendre de la confiture. Parce qu'on n'aime plus le bien sensible. Premier analogué du bien. Et alors, quand je recherche, est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il existe un être premier ? Immédiatement, je peux dire, s'il existe un être premier, cet être doit être infiniment bon. Je peux le dire avant d'avoir découvert Dieu. L'être premier est nécessairement infiniment bon. Donc, je ne peux le découvrir qu'à travers l'amour. Et pas uniquement par l'intelligence. Ah, je peux le découvrir uniquement par l'intelligence. Je peux. Sûrement. Je découvre l'acte pur. Et quand je découvre l'acte pur, je dis cet acte est infiniment bon. Mais il faut une intelligence métaphysique suffisamment forte pour que l'acte demeure lié à la réalité bonne. Si je suis intelligent, je vais mettre avec moi, pour que ce soit plus facile, l'amour. Et je découvrirai l'existence d'un être premier à partir de l'amour d'amitié. Voyez, il y a comme deux découvertes de Dieu. L'une purement médavique, l'autre plus affective. Toutes les deux se servent de l'intelligence. Mais d'un côté, c'est l'intelligence dans toute sa pureté, dans toute sa rigueur, au-delà de toute logique, qui découvre ce dépassement. Puis l'autre qui découvre Dieu en se servant de l'amour et par l'amour, en me disant une intelligence qui est lumineuse dans l'amour sera plus facile pour moi de saisir celui qui est infiniment bon. Je découvre la bonté première. Je découvre l'amour premier. C'est plus facile de découvrir ça parce que l'amour a l'avantage de pousser à la recherche plus vite que l'intelligence. L'amour télescope un peu les intermédiaires et elle se précipite sur la réalité bonne qui m'attire et qui réalise en moi l'amour. Voyez, je crois que c'est très important de saisir ces deux voies. Et c'est en ce sens-là que la découverte de l'amour de Dieu est une découverte qui me fait passer de la science à la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence liée à l'amour. C'est l'amour lié à l'intelligence. C'est une connaissance sapientiale. Alors, la découverte de Dieu me fait entrer dans un nouveau domaine, le domaine de la réalité parfaite, le domaine où l'intelligence et la réalité ne font qu'un, où l'amour et la réalité ne font qu'un, et je découvre la primauté de Dieu de cette façon. Alors, ayant compris cela, voyez qu'il y a quelque chose de très particulier. Je ne dirais pas que l'intelligence ne peut pas saisir le principe de finalité dans toute sa pureté, elle peut le faire par la philosophie de l'acte. Mais très souvent, la plupart du temps, elle a besoin de ce support humain de l'amitié qui met l'amour au service de l'intelligence et qui permet à l'intelligence en quelque sorte d'aller plus loin. elle soutient l'intelligence, elle l'aide, elle est là pour pousser. Mais ce qui reste toujours vrai, c'est que la découverte de la finalité se fait par l'intelligence. Donc, non pas par la substance, mais par un accident. L'intelligence, c'est un accident. Et la découverte de l'intelligence découle la source de l'être. C'est très curieux. La substance, mon âme, qui vient directement de Dieu, ne peut pas découvrir Dieu par elle-même. Elle le découvre par le moyen de l'intelligence, par le moyen de l'intelligence métaphysique, la métaphysique de l'acte, par le moyen de l'amour, la philia, l'amitié. J'ai les deux moyens qui, tous les deux, sont accidentels. C'est vrai. Parce que l'amour d'amitié, au plan métaphysique, est quelque chose d'accidentel. Je ne peux pas dire que c'est substantiel quant à son terme. C'est vrai. Mais c'est accidentel quant à la découverte de ce terme. Tous les deux se font par la puissance. Et donc, la puissance peut être considérée de deux manières. En tant qu'être, la puissance est relative à la substance. C'est un accident. Mais je peux découvrir la puissance intellectuelle, volontaire, comme ce qui me permet de découvrir le principe premier, la réalité première. Et donc, là, dans l'ordre de la vie, elle est quelque chose d'absolu. Puisque c'est par elle, par l'intelligence, que je suis capable d'affirmer l'existence de Dieu. L'existence du principe. C'est la grandeur de l'intelligence et de l'amour, de la volonté en parallèle. Parce que les deux seront en connexion pour la découverte de Dieu d'une façon plus facile que par uniquement l'intelligence. Et des deux côtés, je suis en présence de l'absolu pour moi, au point de vue de ma vie, au point de vue de mon bonheur, l'absolu est découvert par l'intelligence et la volonté. C'est pas ma substance, mon âme, qui me permet d'entrer en contact direct avec Dieu. Je ne peux pas entrer en contact direct avec Dieu. Le contact du côté de Dieu est direct, mais du côté de moi, non. C'est ça qui est très curieux. Dieu m'atteint directement mon âme. En tant qu'il est le Créateur, en tant qu'il est Père, directement, il n'atteint pas mon âme par mon intelligence. Non. Il atteint mon âme par elle-même. Mais moi-même, je n'atteins Dieu que par mon intelligence et ma volonté. Deux puissances et non pas la substance. Donc, il faut bien reconnaître que l'esprit en moi est dans une fragilité, dans une faiblesse très grande, puisqu'il est en moi d'une façon potentielle, par la puissance, et non pas par la substance.